L'aime. L'émission. L'émission. Sur Transistor. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
Bonjour Julie, bonne année.
Bonjour Davy, bonne année.
Ça va bien ?
Ça va, et toi ou vous ?
Comme vous voulez. Bon alors, l'automne, c'est une saison qui présentait un certain ralentissement de l'activité extérieure de la ruche. Mais les abeilles, elles ont continué un petit peu à travailler et elles ont même commencé à préparer leurs réserves pour que la colonie passe l'hiver. Mais qu'est-ce qu'on va pouvoir observer quand on arrive sur un rocher en hiver ? Et est-ce qu'elles sont sorties pour butiner encore un petit peu ?
Alors, en fait, il y a une chose qui est intéressante, je trouve, au niveau des abeilles et au niveau du lien homme-abeille, c'est que pour nous, l'hiver, ça commence le 21 décembre jusqu'en mars. Et effectivement, pour l'apiculteur et pour les colonies d'abeilles donc prises en charge par un apiculteur, hein, l'hiver, il commence limite après la récolte de miel. Jusqu'au printemps prochain, puisqu'effectivement, comme tu le dis, les abeilles font leurs réserves fin d'été, début d'automne, pour préparer la survie de la colonie pendant tout l'hiver. Et donc, pendant cette partie-là, effectivement, la vie de la colonie se ralentit. Ce qu'il est intéressant à dire, c'est que les abeilles, elles hivernent et elles n'hibernent pas. La seule différence entre ces deux termes-là, c'est que hiberner, ça veut dire qu'on dort pendant l'hiver, alors que les abeilles, effectivement, elles hivernent, donc elles ralentissent juste leur activité, mais l'activité continue. Donc la seule différence, c'est qu'effectivement, elles ne butinent pas. Parce que les abeilles, c'est un insecte, donc de la famille, je crois que je l'avais déjà dit, mais des hyménoptères. Les hyménoptères, hyménos, ça veut dire mariage, ptère, ça veut dire aile. Donc c'est juste qu'elles ont les ailes qui, par des petits crochets, peuvent se coller les unes aux autres. Elles ont deux paires d'ailes. Donc elles sont de la même famille que les guêpes, les frelons, les bourdons, les abeilles sauvages. Et les abeilles mellifères, elles ont la particularité d'être un insecte à sang froid. Donc, elles ne peuvent pas, comme nous, par exemple, se réchauffer. La seule manière... En fait, elles n'ont pas de système de régulation de la température, pour être plus exact. Et pour se réchauffer, c'est justement cette activité dans la ruche. Elles vont se regrouper en une grappe. Donc, nous, pour l'apiculteur, on veut une grappe quand même assez grosse, de la taille d'un ballon de basket, pour qu'elles soient assez nombreuses, pour maintenir la température à l'intérieur de cette grappe-là. Et en général, elles créent cette grappe-là à côté des réserves qu'elles ont emmagasinées fin d'été et pendant l'automne.
Alors ça veut dire qu'on ne les voit plus du tout à l'extérieur ?
Non, normalement on ne les voit plus du tout.
Pourquoi normalement ?
Parce qu'il faut savoir que les abeilles, donc, par ce fait de impossibilité de réguler leur température corporelle, elles ne peuvent pas sortir de la ruche quand il fait moins de 10 degrés. En fait, c'est même 7 degrés, je crois, la température précise. On l'a vu, nous, plusieurs fois, quand elles doivent sortir pour X raisons, elles sont paralysées, en fait, par le froid. Mais, par exemple, là, pendant nous, ici, on a la chance, alors là, ces derniers jours, un peu moins, mais on a la chance d'avoir quand même des hivers assez doux. La semaine prochaine et la suivante, on va avoir du 12-13 degrés. Là, pendant l'hiver, comme d'habitude, elles ne sortent pas pendant une période un peu plus longue en hiver. Elles emmagasinent, elles ne peuvent pas faire leurs besoins forcément. Et donc, elles vont faire ce qu'on appelle des vols de propreté pendant ces périodes un peu plus douces, ces températures un peu plus douces pendant l'hiver. Et donc, elles vont sortir et elles vont aller faire leurs besoins et re-rentrer dans la ruche. Donc, il n'y a pas de butinage ni quoi que ce soit à l'extérieur parce qu'il n'y a rien à butiner. Mais en revanche, ce sont des vols de propreté pour évacuer les saletés qu'il peut y avoir dans la ruche et faire leurs besoins.
Alors, quel genre de saleté ?
Ça va être des abeilles mortes, puisque il faut savoir que la reine, à l'automne, comme tu disais, elle ralentit sa ponte, mais elle va pondre encore un peu pour créer la population d'hiver. Mais donc, ça veut dire que tu as des populations qui sont conjointes, la fin de la population des abeilles d'été et donc les abeilles d'hiver. Et donc, ces abeilles d'été, elles vont venir à mourir. Et donc, c'est tous ces cadavres-là, éventuellement des saletés, tout le nettoyage des alvéoles, ça peut générer des saletés. C'est tout ça qu'elles vont nettoyer.
Donc elles vont transporter les cadavres à l'extérieur.
Ouais, tout à fait. Elles vont les pousser.
Elles vont les pousser. Donc, ouais. Sur la planche d'envol, c'est ça ? Depuis la planche d'envol, on les voit, elles les poussent et puis pouf, ça tombe.
Ouais, au sol.
D'accord. Mais alors, il n'y a pas de période de reproduction pour les abeilles ?
Alors, si, pendant l'été, alors tu as une grande différence entre les abeilles d'été et les abeilles, on va dire, d'hiver. Les abeilles d'été, elles vivent en moyenne entre 45 et 60 jours, donc c'est à peu près 6 semaines. Les abeilles d'hiver, elles vont avoir une durée de vie d'à peu près 6 mois. Donc ça va être de octobre, novembre à mars, au printemps d'après. La raison pour laquelle elles peuvent avoir une durée de vie un peu plus longue, c'est que les abeilles d'hiver, elles ne vont pas faire des tâches aussi fatigantes et aussi dangereuses que les abeilles d'été qui vont butiner, qui vont sortir de la ruche. Ça demande moins d'efforts physiques pour elles, donc c'est aussi pour cette raison-là. S'il y a suffisamment de réserves et si elles sont suffisamment nombreuses pour bien se réchauffer, que les abeilles d'hiver vivent plus longtemps.
Physiologiquement, c'est les mêmes.
Ouais, c'est exactement les mêmes.
D'accord.
Et à une petite différence près, c'est que dans la ruche, donc tu as toujours la reine, tu as les ouvrières qui sont les femelles et tu as les mâles, les fameux faux bourdons. À la fin de courant d'automne, les faux bourdons, je ne sais pas si tu te souviens, ils ne se nourrissent pas tout seuls. Ils sont nourris par la colonie. Et donc, à la fin de l'automne, ça fait des bouches en plus à nourrir. Donc, les faux bourdons sont évacués, sont éjectés de la ruche. Et donc, comme ils ne peuvent pas se nourrir, ils vont mourir dans la nature. Et donc, en hiver, tu n'as pas de mâle. Voilà, dans la ruche.
Est-ce qu'on peut rappeler la différence visuelle, physiologique, entre l'abeille et le faux bourdon ?
Alors, l'abeille, on va dire l'ouvrière, elle est un peu plus petite. Elle a un corps qui ressemble à celui de la reine, qui est assez gros, mais elle est plus petite. Le mâle est beaucoup plus dodu. Il est plus costaud, tout simplement, parce que un de ses rôles, c'est d'aller féconder les reines au courant du printemps. Et ce sont en général des vols qui sont très physiques. Ils sont nombreux, donc il y a une très grande compétition entre eux. Et la reine, elle vole quand même assez vite. Donc du coup, il faut pouvoir gérer ce combat de reproduction. Et la deuxième chose, c'est que le mâle sert aussi dans la ruche pendant la saison, donc du printemps à la fin de l'été, à créer un système de... Ils participent à l'aération naturelle de la ruche. Donc, les ouvrières qui vont aller butiner vont également récupérer de l'eau, vont enduire les parois de la ruche. Et ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, pour réchauffer ou pour aérer la ruche ou pour créer de la chaleur, elles battent des ailes très très vite. Ça leur permet de contracter leurs muscles et de générer de la chaleur. Mais du coup, ce battement d'ailes aussi peut fonctionner pour les faux bourdons notamment, en système d'aération grâce à l'eau et à l'évaporation de l'eau. Ils battent des ailes et ça fait une aération.
Alors, quel est le travail et le rôle de l'apiculteur en hiver ?
Alors, en hiver, en fait, c'est simple. La seule chose qu'on doit aller voir, c'est être sûr que le rucher est en bon état. Alors là, en l'occurrence, ça a été encore plus vrai avec la tempête.
Donc, ouais, et d'autant plus que l'hiver, dans le Finistère, depuis quelques années, il est quand même assez... c'est un climat qui est assez propice. Enfin, s'il y a une météo qui est assez, assez dure.
Ouais.
On a beaucoup, beaucoup de coups de vent. Mmh. Et j'ai l'impression, moi, que c'est de plus en plus violent.
Ouais.
On a eu, effectivement, l'exemple au mois de novembre.
Mmh. Oui, et puis on a aussi des températures, je trouve, qui fluctuent vraiment dans les extrêmes.
De plus en plus, oui.
Par exemple, la semaine prochaine, je crois qu'il y a une journée, on va atteindre 15 degrés. Alors que,
qu'on a moins 4 demain.
Alors qu'on a moins 4 demain. Même dans une seule et même journée, il faisait moins 2 ce matin. Enfin, moins 1 ce matin. Cet après-midi, il fait 7 degrés. Donc ça aussi, ce sont, des amplitudes de température qui sont importantes. Où nous, notre rôle en tant qu'apiculteur, ça va être... comme on a dit à l'automne, dès l'automne, de préparer le rucher à l'hivernage. Donc nous, là, en l'occurrence, entre tous les coups de vent, les températures et la météo, ça a été compliqué. Parce qu'on a des ruches qui sont très populeuses. Mais un des rôles de l'apiculteur pour permettre aux ruchers de bien hiverner, c'est comme on sait que la reine, elle va réduire sa ponte, on sait que la colonie, elle va diminuer un peu.
De combien à peu près ?
On dit... En moyenne, en pleine saison, t'es en moyenne à 60 000 abeilles dans la ruche. En hiver, t'es à 20 25 000. Le but, c'est que ça fasse... Faut pas que ta grappe, elle soit plus petite qu'un ballon de hand, quoi. Sinon, t'es quasiment sûr qu'elles vont pas être assez nombreuses pour se réchauffer et qu'a priori, elles ont quand même de grandes chances de mourir. Et donc là, bon, voilà, tu gères la colonie en fonction de ça. Mais donc là, nous, on a réduit... Et pas dans toutes, on n'a pas pu réduire le nombre de cadres, adapter la taille de la maison à la colonie. Donc on sait qu'on a une ou deux ruches qui sont encore sur trop de cadres et donc qui vont avoir une maison trop grande à réchauffer. Donc elles vont utiliser plus de ressources. Et donc un des rôles de l'apiculteur en hiver, l'état du rucher et de chacune des ruches, mais également en fait on soupèse les côtés de la ruche à la main pour se faire une idée de est-ce qu'il y a assez de réserves ou est-ce qu'il n'y a pas assez de réserves. Et c'est là où ça va être intéressant, où là, dans ces prochains jours, il va faire assez doux. On sait qu'on va pouvoir aller au rucher et bah, éventuellement nourrir les ruches qui sont en manque de nourriture. On sait qu'on en a une, c'est obligé. On va quasiment être obligé de la nourrir parce qu'on n'a pas bien fait notre boulot en amont.
Alors, on les nourrit avec quoi et comment ?
Alors, on les nourrit... en fait, il y a deux types de nourrissement pour les abeilles. En fait, tu as un nourrissement pour stimuler la reine. En gros, c'est un sirop que tu donnes qui, pour elle, va s'apparenter à du nectar. Et en mettant du sirop, ben, tu leur envoies en fait, un signal en disant « Allez, vas-y, ponds !» Parce que comme il y a plein de ressources dehors, tu peux aller pondre. Donc ça, on appelle ça un nourrissement de stimulation de ponte. Donc en hiver, on ne le fait pas. En hiver, on va lui donner, en fait, c'est une espèce de pâte de sucre, ce qu'on appelle du candy. Il faudrait que je te montre. C'est une pâte de sucre que l'on va, c'est des poches que l'on va venir poser au-dessus du couvain, donc vraiment de la grappe. Au-dessus de la grappe, pas du couvain, au-dessus de la grappe. Et grâce à la chaleur générée par la grappe, cette pâte, elle va se ramollir. Et donc, on la met directement sur les cadres et donc ça va couler, elles vont se nourrir. L'objectif, c'est que la grappe, elle soit toujours collée à la nourriture pour qu'elle ne dépense pas d'énergie en plus pour aller chercher leur nourriture, parce que tu es quasiment sûr en hiver. On a déjà, je pense qu'on a tous fait la bêtise en tant qu'apiculteur. On met, je ne sais pas si tu te souviens, on met des nourrisseurs. Donc c'est sur la ruche, on met un espèce de... c'est un élément en bois avec des trous qui permettent aux abeilles de passer de l'intérieur de la ruche à l'élément au-dessus. Et en fait, tu as comme une grande réserve et donc on met le sirop là-dedans. Et si tu mets le candy là-dedans, alors s'il ne fait pas trop froid et qu'elles sont assez nombreuses, quelques-unes peuvent venir manger le candy, mais elles n'auront jamais assez d'énergie pour redescendre la nourriture pour l'ensemble des abeilles. Et donc, tu as de grandes chances qu'elles meurent de faim.
Ah oui, donc
il faut vraiment que ce soit liquide. Coller dessus, quoi.
Coller dessus, ouais, ouais. Et que ça coule.
Ouais, bah, ça va, en fait, ça ne va pas vraiment couler, ça va vraiment se ramollir un peu comme un chewing-gum, quoi.
D'accord.
Sauf que ça, c'est pas élastique pareil.
C'est constitué de quoi le candy et puis ce sirop?
Alors c'est du sucre. Alors là, il faudrait que je revoie mes notes parce que il y a certaines molécules de sucre qui sont pas assimilables par les abeilles. C'est un type de sucre. C'est un mélange d'oligo-éléments. Enfin, t'as un peu de pollen, je crois, dedans. Et ça fait. Il faudrait que je te montre. C'est une grosse pâte blanche. C'est hyper collant, quoi. Et ouais, bah ça en général. Donc on le fait pas de manière systématique, on nourrit pas de manière systématique. Là, on a la chance quand même ici d'avoir des ressources tard dans la saison. Même après la récolte, elles remplissent, quoi. Il y a vraiment des cadres qu'on peut pas soulever à l'automne. Donc voilà, on adapte aussi en fonction des ruches. Et voilà.
Alors cette pâte blanche, hein, c'est le candy. C'est,
ouais.
C'est quelque chose qu'on peut pas faire soi-même. On est obligé de se le procurer, j'imagine.
Alors nous on se le procure, mais c'est une bonne question. Je sais pas s'il y a des apiculteurs qui le fabriquent ou qui fabriquent des pâtes ou des choses comme ça. Peut-être, je sais pas du tout.
Et le sirop, c'est quoi? C'est pareil, c'est de l'eau avec du sucre?
Ouais, en fait, moi je le fais moi-même. En fait, t'as un sirop plus ou moins dosé, plus ou moins dilué. Soit tu fais du 50-50, mais en général, le 50-50, c'est vraiment pour faire une bonne stimulation. Mais nous, en général, on fait 60-40, 60 de sucre, 40 d'eau.
Ah oui, donc c'est très proche de... Si on pouvait comparer ça à quelque chose, à un aliment pour nous, ce serait presque de la confiture, quoi.
Ouais.
Ou du sirop
du miel.
Ouais, non, c'est très, ouais, très, très sucré.
C'est
quoi.
Un sirop. Ouais, ouais, c'est très sucré. Il faut faire attention parce qu'effectivement, si tu leur en donnes trop, elles tombent malades. Donc c'est...
Oui, comme nous.
Ouais, ouais, exactement, comme nous.
Et c'est la même chose ? C'est exactement le même genre de maladie ? C'est,
ouais, bah, c'est des diarrhées. C'est un effondrement du système immunitaire. Enfin, c'est un peu global, quoi. C'est un, comme une intoxication.
Ouais. C'est mais... l'équivalent de notre... comment t'appelles ça pour le foie, d'ailleurs ?
Ouais, une cirrhose ?
Oui, c'est ça.
Ouais, ouais, ça doit être ça.
C'est l'équivalent,
ouais,
de la cirrhose.
Ouais, je pense, ouais. Et ce qui est très intéressant, c'est que autant quand on était dans le Morbihan, le nourrissement, il était... on devait nourrir quasiment tout le temps. Enfin... chaque année, enfin, comme ça, pendant l'hiver, et quelquefois au printemps, parce qu'il y avait moins de... Dans le coin où on était, il y avait moins de diversité floristique. Alors qu'aujourd'hui, ici, je pense que depuis 2021, on a dû nourrir peut-être deux ruches, voilà, ou quand on fait un essaim. Mais pour le moment, on n'a pas eu besoin de nourrir, même avec du candy... de manière systématique, sur les 8 ruches, on a dû en nourrir qu'une, quoi. Là, on sait qu'il y en a une, potentiellement, qui doit être bien... qui doit être bien, bien affaiblie. Là, en plus, avec le temps qu'il fait, on peut même pas aller, on peut même pas aller ouvrir ni quoi que ce soit. Ça serait les tuer, en fait. Donc, on n'ouvre pas, pour répondre à ta question. Le travail de l'apiculteur, c'est ça, c'est d'aller voir que le rucher est en bon état. De regarder les planches d'envol, est-ce que tu as des mortes dessus, de regarder par terre, est-ce que tu as des mortes au sol, qui peuvent être des indicateurs d'une activité anormale ou quelque chose qui s'est passé. En général, tu t'approches tout doucement de chacune des ruches pour vérifier est-ce que j'ai un bourdonnement, est-ce qu'il y a du monde. On sous-pèse chacun des côtés. Comme on a sous-pesé à l'automne, on sait quelles sont, on a noté quelles sont les ruches les plus fortes.
Vous les pesez même carrément ? Vous dites, ou c'est juste alors, comme ça, un petit peu à la louche ?
Nous, on le fait à la louche, mais les professionnels, ils ont des pesons particuliers avec des pieds et tout. C'est super intéressant, ouais, à voir.
Une espèce de palan, quoi, en fait. Hein,
ouais, c'est ça.
C'est suspendu, quoi.
Exactement. Mmh. Nous, on le fait à la main aussi pour se faire l'œil, pour se faire la main, pour se faire le ressenti. Et de toute façon, dans ta ruche, comme normalement elle est resserrée, tu as toujours un côté qui est plus lourd et l'autre qui est plus léger, forcément. Mmh. Et donc, on fait ça. Pendant les températures plus douces, on va aller mettre un traitement. Je ne sais pas si tu te souviens, le fameux acarien asiatique, le varroa. Si on peut, on va aller mettre un traitement à l'acide oxalique. Donc, c'est un gel qu'on passe dessus pour les aider. Parce que comme il n'y a pas de ponte, il n'y a pas de couvain, donc tous les varrois qu'on va pouvoir toucher, ils sont sur les abeilles, donc c'est idéal. Mais il faut réchauffer ta substance pour pas que ça soit trop froid et qu'elle soit active. Et éventuellement, donc, poser le candy sur les ruches qui en ont besoin. On ne sort en aucun cas les cadres. Et voilà, et on nourrit, on accompagne notamment avec du candy. On peut aussi mettre, on a des espèces de pâtes protéinées qui vont du coup se rapprocher de tout ce qui est, c'est une pâte de pollen en fait, pour aider certaines colonies qui sont vraiment très faibles. On met les deux, on met le candy et la pâte protéinée, mais pareil, c'est pas du tout du systématique.
D'accord. Est-ce que l'apiculteur, il intervient aussi un petit peu sur l'environnement de la ruche ? Sur les alentours, quand je dis environnement.
Là, par exemple, avec la tempête, oui, pour aller déblayer d'éventuelles branches qui sont tombées, faire en sorte que ton rucher... nous, ici, le problème principal, c'est l'humidité. Donc, faire en sorte que ta végétation ne soit pas trop haute ou que les abeilles puissent vraiment bien aérer avec la grille d'aération qu'il y a en bas en fait, de la ruche. Donc, vraiment s'assurer que tu n'es pas des grosses réserves d'eau, des grosses cuvettes d'eau, des choses comme ça qui vont pouvoir amener des maladies. Après, en ce moment, globalement, on n'a pas besoin d'intervenir sur l'environnement, à part cas particuliers, tempêtes et tout, intempéries, mais...
On va reparler encore des températures. Puis comme vous parliez d'hygrométrie, on va en parler un petit peu. Mmh. Est-ce que ça a un impact, l'hygrométrie, sur la ruche, sur le miel, sur le couvain et tout ça ?
Oui. Alors, sur la ruche, on va dire, à partir du moment où les abeilles elles peuvent ventiler, qu'il y ait de l'humidité, ce n'est pas un problème du tout. En été, ce n'est pas un problème, bien au contraire. En hiver, tant qu'elles vont pouvoir aérer, ça ne pose pas de problème. Ce qui va poser problème, c'est s'il y a de l'eau stagnante, par exemple. Quand il fait très froid, on peut mettre des planches qui vont obstruer la grille d'aération. Mais nous, on l'a fait une fois en Morbihan. Et même si la plaque était très bien mise, il y a de la condensation, il y a de l'humidité. Et du coup, il y avait vraiment de l'eau sous la plaque, même avec des petits trous pour évacuer l'eau. Au bout d'un moment, avec les saletés qu'elles évacuent par la grille d'aération, ça vient boucher ces trous-là. Donc, ça peut être un des rôles aussi de l'apiculteur de renouveler, de nettoyer ces planchers-là. Nous, on a fait le choix de ne pas en mettre parce que les températures sont normalement clémentes. Mais donc l'humidité, par contre, effectivement, va jouer sur le miel, puisque c'est du nectar qu'elles ont asséché qui fait le miel. Voilà. Après, pour leur assimilation, je crois qu'elles assimilent aussi bien du nectar que du miel. Et elles peuvent même faire des mixtures qu'on appelle du pain d'abeille. Et je crois que c'est un mélange de miel et de pollen. C'est une pâte un peu jaune et elles se nourrissent aussi de ça.
D'accord. Et c'est quelque chose qu'on pourrait consommer, nous ?
Je crois pas. Je crois pas. Non, je crois pas.
Alors, est-ce que les abeilles maigrissent pendant l'hiver ?
Non, a priori, elles ne maigrissent pas. Elles ne maigrissent pas. Elles ne maigrissent pas, mais effectivement, si... il y a ce fameux déséquilibre entre la taille de la colonie, la quantité des réserves qu'il y a dans la ruche. Les abeilles, elles vont finir par ne plus avoir de nourriture pour vivre. Donc, est-ce qu'elles maigrissent ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, en hiver, les abeilles, elles ne vont pas mourir de froid. Elles vont mourir de faim.
Elles peuvent mourir d'autres choses ? De maladies, par exemple ?
Oui, à cause du varroa, par exemple. Ça peut effectivement, si tu as eu une infestation trop importante pendant la grosse saison et que tu n'as pas traité, que tu ne les as pas accompagnés, que tu n'as pas compté, que tu ne connais pas l'état sanitaire de ta ruche, de tes ruches, tu peux avoir effectivement des maladies la fin de la colonie, quoi, elle meurt.
Mais elles peuvent avoir des maladies, genre des rhumes, des grippes ou des choses comme ça ?
Alors,
des trucs
virales ? Alors, virales, mais pas comme nous en mode rhume et tout. C'est plutôt des champignons ou des virus qui vont leur créer, par exemple. Alors, je ne sais plus comment s'appelle cette maladie, mais c'est une diarrhée. Elles se vident complètement, en fait. Et elles sont... elles sont complètement...
Un peu comme une gastro ?
Ouais, c'est ça, c'est une gastro. Et justement, on parlait du nourrissement tout à l'heure, trop leur donner de sirop, ça peut générer ça. Et du coup, après, elles ne peuvent plus se nourrir, elles rejettent tout ce qu'elles mangent. Et il y a énormément de maladies qui peuvent être liées à des acariens, à des virus... À d'autres éléments comme ça. Mais voilà, tu as des maladies aussi liées aux pesticides. Ça c'est un sujet.
Ouais, mais alors comment on vérifie justement si on ne peut pas ouvrir la ruche, si on ne peut pas contrôler à l'intérieur ? On doit juste se baser sur l'état de la planche d'envol et puis de ce qu'il y a au sol ? Alors, ça ne doit pas être facile pour l'apiculteur de voir quel genre de maladie il y a dans une ruche ?
Alors effectivement, c'est pour ça qu'il y a toute une préparation à l'hivernage. Dans l'hivernage, c'est hiverner la ruche dans une ruche adaptée à sa taille, mais également avoir fait toutes les démarches en amont. Est-ce que sanitairement, je suis ma ruche ? À chaque fois que je peux l'ouvrir, est-ce que je vois des traces de maladie ? Alors ça, par exemple, pour l'acarien, pour le varroa, ça va être des abeilles qui n'ont plus d'ailes, qui naissent sans ailes, où elles sont toutes grises, toutes délavées, elles n'ont plus de couleur. On a une autre maladie, je ne sais plus comment elle s'appelle, mais c'est une maladie neurologique, où elles perdent tous leurs poils et elles deviennent toutes noires et toutes brillantes et elles tremblent, elles ne peuvent plus voler, elles sont malades. Donc ça, tu peux le voir dans la ruche, mais effectivement, à des moments où tu peux ouvrir. Donc normalement, si tu hivernes bien et si tu as bien suivi tes ruches pendant toute la saison précédente, tu sais à peu près où tu en es et ce que tu vas devoir surtout surveiller au printemps.
Ah ouais, donc le printemps, ça va être un petit peu le paquet cadeau, quoi. Ça va être c'est bon ou c'est pas bon, quoi.
Exactement. C'est pour ça que je pense que ce sont les interventions les plus longues, les plus fatigantes, parce que tu as énormément de choses à regarder et à vérifier. Tu dois changer tu changes les corps de ruche aussi, tu changes les planchers, tu nettoies tout ça. C'est lourd. C'est vraiment lourd. Nous, on a la chance, on est à deux. Mais du coup, les apiculteurs pros, chapeau, quoi, parce que c'est vraiment du gros travail. L'hiver aussi est l'opportunité de faire le point par rapport à la saison passée. De faire aussi le bilan de ce qui a bien été, ce qui n'a pas été, éventuellement faire des recherches ou des formations complémentaires si on a eu des cas d'école, voilà, d'échanger avec d'autres apiculteurs, et puis de préparer la saison prochaine. Ça passe par déclarer ses ruches auprès du ministère de l'Agriculture. Ça passe par se fixer les objectifs, préparer le matériel, inventorier le matériel, l'état du matériel, pour préparer notamment la visite de printemps, qui est en général une grosse visite. On en parlera plus tard, mais du coup, qui est une grosse visite. Donc voilà, je pense que j'oublie rien.
D'accord. Alors, j'avais quand même une question. On va reparler maintenant des températures un petit peu à l'intérieur. Mm-mm. Donc, quand il fait trop chaud, c'est un petit peu facile pour les abeilles, il suffit de ventiler. Mais quand c'est l'inverse ? Quand on a du moins 4 et que la température à l'intérieur doit être à peu près stable à 37 degrés, comment elles font ?
Alors, déjà, par rapport à quand il fait trop chaud, c'est plus facile ? Non.
Ah.
parce que c'est toutes les ruches, nous, on isole les ruches. Donc, en fait, tu as ton corps, tu as les éléments. On a parlé du nourrisseur, du couvre-cadre. Et on a toujours une espèce de mousse d'aération où ça peut être aussi une matière qui s'apparente un peu aux couvertures de survie, tu sais, un petit peu plus épais. Et donc, l'isolation de la ruche est autant importante en été qu'en hiver. La seule différence, c'est qu'effectivement, elles dépenseront a priori un peu moins d'énergie en été pour réchauffer s'il y a besoin, ça peut arriver, ou refroidir la ruche. En hiver, la température, du coup, elle n'est pas forcément à 37, elle est plus autour de 30. Si on reprend notre grappe, en règle générale, donc dans la grappe, en plein cœur de la grappe, il y a une température qui doit être constante à peu près à 30 degrés. Et en périphérie, à peu près 8 degrés. Et donc, le fonctionnement de cette grappe-là, c'est que tu as ta reine qui est au milieu, de toute façon. C'est que les abeilles, elles vont se relayer pour... Donc, elles battent des ailes, coller les unes contre les autres pour générer cette chaleur. Et elles vont se relayer entre le cœur et la périphérie. C'est un travail d'équipe pur et dur. Elles se partagent la chaleur.
Oui, parce que sinon, celle qui resterait en périphérie finirait par mourir.
Tout à fait.
Et donc, cette petite sphère-là, elle finirait par réduire jusqu'à s'éteindre. Quoi,
exactement.
En fait.
Et du coup, ce qui va générer des dépenses d'énergie, et donc, c'est pour ça qu'il faut de la ressource dans la ruche, c'est ce battement d'ailes pour générer de la chaleur et ce voyage en périphérie pour tourner. Et elle reste quand même assez immobile à 8 degrés. Mais du coup, elles sont nourries et hop, ça se relaie en fait.
D'accord.
Donc voilà.
Alors, est-ce qu'on a des petits conseils à apporter aux gens pour préparer leur jardin pour protéger les abeilles ?
Alors oui, on en avait un petit peu parlé. On en avait un petit peu parlé en introduction en septembre. En fait, moi, je vois deux choses. Pas forcément qu'on parle des abeilles de manière générale. Donc abeilles sauvages et abeilles mellifères. Là, en ce moment, il n'y a pas trop de choses à planter, puisque de toute façon, il gèle et ça ne poussera pas forcément. Moi, c'est plus en termes d'habitat et d'abri, où je dirais, là, on est à une saison où on a normalement élagué et taillé un peu ces arbres, ces arbustes. Moi, je dirais de laisser ces branches, pas forcément de les broyer ou de les couper, mais de les laisser, parce que pour tous les végétaux qui vont avoir un creux un peu mou, ça peut correspondre à des abris, à des cocons et à des nids pour se protéger du froid. Donc moi, je dirais ça en hiver. Oui, je dirais ça en hiver.
D'accord.
On le conseille.
Est-ce qu'il y a pas de préparation du coup pour l'arrivée du printemps, ou est-ce qu'on commence déjà à anticiper deux, trois petites choses ?
Alors, au niveau du jardin ou au niveau du rucher ?
Au niveau du jardin, au niveau du rucher.
Alors, au niveau du jardin, moi, je dis que je pense que la préparation principale qui a normalement dû commencer à l'automne, c'est de pailler tous les sols qui sont à nu. Donc, les pailler, là, en l'occurrence, de vraiment les pailler de manière importante, donc sur du 15-20 cm de paillage, pour permettre aux organismes qui vivent dans la terre de pouvoir survivre avec ces températures-là, avec la pluie, et que le sol reste fertile et reste riche. Donc moi, je penserais à ça au niveau de la préparation du jardin en principal. Et au niveau du rucher, bah, c'est plutôt de réfléchir à l'état aussi des supports. Nous, par exemple, on avait fait des supports en bois. Et bah, on s'est rendu compte qu'avec l'humidité là, bah, c'est pas assez durable. Donc là, ça pose moins de problèmes. Mais au début, au niveau du printemps et de l'été, quand on va devoir commencer à mettre les hausses, bah, ça peut casser. Donc voilà, de préparer ça, de réfléchir à on parlait du bilan tout à l'heure, de réfléchir à l'utilisation du rucher. Est-ce que je suis à l'aise ? Est-ce qu'il est pratique ? Est-ce qu'il est sécurisé ? Voilà, donc je penserais plutôt à ça, puis à construire bah, le matériel que l'on peut construire, prendre soin de son matériel,
okay.
Et nettoyer le matériel aussi.
Et donc c'est une période un petit peu off pour tout le monde, un petit peu pour les abeilles aussi, parce que c'est là où elles sortent plus, donc elles travaillent un petit peu moins. Je ne dis pas qu'elles ne travaillent pas, évidemment, elles continuent à entretenir.
Elles ralentissent,
mmh. Voilà, c'est ça. Et pour l'apiculteur, bah, c'est le moment où on va faire un petit peu d'administratif,
ouais.
Faire un petit peu d'entretien et très peu de passages, parce que de toute façon, on ne peut pas le faire.
Non. Oui.
Voilà, on a parlé aussi un petit peu de l'acarien, qui est un ennemi, et un tout petit peu du frelon.
Oui.
Il en est où le frelon en hiver ?
Alors, la particularité qui va séparer, enfin qui va différencier les abeilles mellifères, donc Apis mellifera, des guêpes, des frelons, des abeilles sauvages, c'est que en hiver, pour notamment le frelon, il n'y a que la reine qui survit. Elle se fait féconder avant l'hiver et donc elle cherche un abri en hiver pour être à l'abri et au printemps, elle va pondre. Et l'activité va reprendre. Voilà. Mais donc, c'est pour ça qu'on ne les voit pas. Et c'est pour ça que, par exemple, si on ne fait pas forcément attention au niveau de nos réserves de bois, par exemple, ou des choses comme ça dans nos jardins, nous, ça nous est déjà arrivé. Tu mets une bûche dans le poêle et tu as un frelon dessus, quoi. Donc, complètement inoffensif, hein, puisqu'elle est au ralenti. Et voilà, elle est en hibernation. Et voilà.
D'accord. Est-ce que la ruche a des ennemis en hiver ?
Alors oui, les piquets-pêches ou les rongeurs qui vont.
Ils étaient déjà là en automne.
Ouais, bah oui. Là, en plus, bah là avec ce temps-là, ils sont encore plus protégés. Enfin, ils se protègent encore plus. Mais effectivement, tu peux avoir les piquets-pêches qui viennent taper ta ruche et bah du coup, tu fais un trou dans la ruche. Nous, on n'a jamais eu le cas. Et les rongeurs, tu vois des traces de passage, mais on n'a jamais eu non plus la surprise au printemps d'avoir ça. Peut-être qu'au printemps prochain, on l'aura, je te dirais. Mais je pense à ces deux-là. Et puis, bah, le varroa qui reste sous-jacent, qu'importe la saison et qu'importe l'état de la colonie et la vie. De la colonie.
Alors heureusement, parce que là, du coup, les abeilles, elles pourraient pas trop se défendre si jamais il y avait une attaque de frelons ou...
Ça serait très compliqué pour le
rucher, d'accord. Alors, est-ce qu'on a des petits conseils à apporter aux gens pour préparer leur jardin pour protéger les abeilles ?
Alors oui, on en avait un petit peu parlé... On en avait un petit peu parlé en introduction en septembre. En fait, moi, je vois deux choses. Pas forcément qu'on parle des abeilles de manière générale, donc abeilles sauvages et abeilles mellifères. Là, en ce moment, il n'y a pas trop de choses à planter, puisque de toute façon, il gèle et ça ne poussera pas forcément. Moi, c'est plus en termes d'habitat et d'abri. Où je dirais, là, on est à une saison où on a normalement élagué, étaillé un peu ces arbres, ces arbustes. Moi, je dirais de laisser ces branches, pas forcément de les broyer ou de les couper, mais de les laisser parce que pour tous les végétaux qui vont avoir un creux un peu mou, bah, ça peut correspondre à des abris, à des cocons et à des nids pour se protéger du froid. Donc moi, je dirais ça en hiver. Oui, je dirais ça en hiver.
D'accord.
On les conseille.
Est-ce qu'il y a pas de préparation du coup pour l'arrivée du printemps ou est-ce qu'on commence déjà à anticiper deux, trois petites choses ?
Alors, au niveau du jardin ou au niveau du
rucher ? Au niveau du jardin, au niveau du rucher.
Alors, au niveau du jardin, moi je dis que je pense que la préparation principale qui a normalement dû commencer à l'automne, c'est de pailler tous les sols qui sont à nu. Donc les paillets, là en l'occurrence, de vraiment les pailler de manière importante, donc sur du 15-20 cm de paillage, pour permettre aux organismes qui vivent dans la terre de pouvoir survivre avec ces températures-là, avec la pluie, et que le sol reste fertile et reste riche. Donc moi, je penserais à ça au niveau de la préparation du jardin, en principal. Et au niveau du rucher, c'est plutôt de réfléchir à l'état aussi des supports. Nous, par exemple, on avait fait des supports en bois. Et on s'est rendu compte qu'avec l'humidité c'est pas assez durable. Donc là, ça pose moins de problèmes. Mais au début, au niveau du printemps et de l'été, quand on va devoir commencer à mettre les hausses, ça peut casser. Donc voilà, de préparer ça, de réfléchir à on parlait du bilan tout à l'heure, de réfléchir à l'utilisation du rucher. Est-ce que je suis à l'aise ? Est-ce qu'il est pratique ? Est-ce qu'il est sécurisé ? Voilà, donc je penserais plutôt à ça, puis à construire le matériel que l'on peut construire, prendre soin de son matériel, okay. Nettoyer le matériel aussi.